Alors, on va faire donc une conférence à deux voix. Donc, on va vous présenter d'abord une partie qui sera centrée sur la littérature de jeunesse, avec un corpus d'albums qui traite de la question de l'immigration. Donc, ce sera ma partie. Et Magali vous présentera une deuxième partie qui sera centrée sur la question de la scolarisation des enfants issus de l'immigration. Alors, on a bien sûr choisi de mettre un S à mémoire. Parce qu'il est question de mémoire plurielle et on va voir à la fois quelles sont les mémoires que les enfants transportent avec eux dans leur parcours identitaire et comment ces mémoires convergentes ou divergentes, concurrentes et évidemment plurielles se lisent dans la littérature de jeunesse qui est un support scolarisé et qui est un support extrêmement lu à la fois par les parents et les enfants. Parce qu'il y a quand même toujours l'idée que les parents sont les médiateurs aussi, et les enseignants bien sûr, de ce type de support. Des images pour commencer à vous mettre un peu l'eau à la bouche. J'ai pris un album qui est très emblématique de cette question de la mémoire plurielle qui peut naître du déchirement entre un pays natal et un pays d'accueil. Alors j'ai pris spécifiquement un album écrit par un auteur issu de l'immigration algérienne, Azouz Begag, album illustré par Catherine Louis, qui ont été portés par Thierry Magnier, qui a fait donc de cet album un emblème de la question du transport, du transfert entre le pays natal et le pays d'accueil. Alors bien évidemment, sur la première de couverture, vous voyez que il s'agit d'une image plutôt ancienne, sépia, colorisée, qui provient d'un imaginaire beaucoup plus lointain, sur lequel je vais revenir au cours de cette conférence, puisqu'il s'agit d'un imaginaire colonial qui est là aussi en filigrane dans beaucoup de mémoires, y compris de mémoires enfantines. Deuxième exemple que j'ai voulu prendre, voilà, c'est un exemple beaucoup plus récent. Donc c'est un album qui parle des migrations contemporaines. C'est un enfant dont on ne sait pas très bien de quel pays il arrive, qui va venir en Europe par le biais d'un bateau. Il va se faire d'ailleurs arrêter par les gardes-côtes en Italie. L'action est volontairement peu localisée au niveau géographique, mais on comprend très vite qu'il s'agit de ces fameuses migrations contemporaines dont on parle beaucoup en ce moment et qui sont le fait de migrants, dont Magali parlera après, puisqu'ils vont parfois, et heureusement, être scolarisés dans des pays en Europe. Voilà, donc c'était simplement pour faire un peu le corollaire entre mon corpus d'études qui est vraiment centré sur l'immigration algérienne. Donc pour moi, il s'agit de travailler sur des auteurs qui écrivent en français, mais qui sont nés en France, mais qui viennent d'Algérie. Et aujourd'hui, on peut établir des parallèles sur des corpus beaucoup plus récents. Alors, pour introduire un peu mon propos, donc l'idée, c'était de partir de l'enfant. Comment l'enfant est traversé par différentes mémoires. Alors il y a la mémoire familiale, celle qui lui est transmise par les récits familiaux, par les images qu'on trouve dans les familles, par également les récits intergénérationnels. Hein, il peut y avoir plusieurs générations qui portent des récits familiaux. Ensuite, il y a les récits collectifs, ceux qui sont transportés par des manuels scolaires, par l'école, par les médias. Et puis, il y a aussi une mémoire qui est plus centrée sur le vécu de l'enfant, qui va être une mémoire sensorielle, c'est-à-dire les odeurs, les couleurs, les sons dont il est lui-même tributaire et qu'il transporte littéralement avec lui depuis son pays d'origine. Alors, dans le cas de l'immigration algérienne, il y a une petite différence à apporter. Quand je parle d'immigration algérienne, je me situe du côté d'enfants qui sont nés en France. Donc, la mémoire, c'est plutôt une mémoire familiale. Et on va voir que ce sont des mémoires qui sont d'ailleurs coupées de leur socle d'origine parce qu'elles sont souvent non transmises, mal transmises, taboues, inaudibles. Voilà, on en reparlera ensemble. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est la persistance de ces effets mémoriels dans le quotidien de l'enfant, hein, que ce soit dans des jeux, dans la récréation, que ce soit dans son rapport avec les autres. L'enfant est traversé par différentes interactions qui proviennent de ces mémoires plurielles. D'autre part, on a aussi bien sûr toute la question de l'image hein, qui est omniprésente. Tout à l'heure, on a des collègues qui vont vous parler d'un film très connu qui s'appelle La Bataille d'Alger. Dans La Bataille d'Alger, on montre la casbah. Eh bien, la casbah d'Alger est devenue une image archétypale qu'on va retrouver dans beaucoup d'albums de littérature de jeunesse qui parle de l'immigration et de la guerre d'Algérie. Et en fait, on se rend compte à travers les récits des enfants ou les images qui ont été collectées qu'on a des images archétypales qui se transforment et qui continuent d'avoir une survivance dans le présent contemporain de l'enfant. Alors, pour avancer un peu plus sur cette question mémorielle, il nous a semblé important de conduire un fil sur le côté de la prise en charge de cette mémoire. C'est-à-dire que, en gros, dans le milieu scolaire, c'est une mémoire qui est souvent absente, enfin, que l'enfant garde du côté de son vécu personnel. Donc, nous, on a voulu traiter la question du côté de la littérature de jeunesse, c'est-à-dire qu'elle est un support pour parler de la mémoire, pour évoquer des images, pour parler aussi d'une mémoire historique. Hein, il y a une mémoire stabilisée, authentifiée par les historiens, en particulier sur la guerre d'Algérie, qui m'intéresse dans mon corpus sur l'immigration algérienne. Donc, il faut qu'on puisse, et notre idée, c'est de le prendre à partir d'un support de littérature de jeunesse, faire cohabiter plusieurs mémoires et faire émerger des paroles de l'enfant autour de ses mémoires familiales, collectives, historiques. Donc, c'est aussi le travail que fera Magali tout à l'heure quand elle vous parlera de l'interculturalité. Alors moi, j'ai voulu mettre l'accent sur la question de la littérature de jeunesse migrante. J'aime bien ce terme, je trouve qu'il est c'est un terme évolutif et que c'est un terme qui me permet de réunifier mes corpus, c'est-à-dire d'un côté un corpus très identifié sur cette question de la migration algérienne et puis aussi maintenant un corpus beaucoup plus contemporain que vous trouvez en librairie actuellement sur les migrations contemporaines. Voilà, donc je vous renvoie du coup à ma thèse que vous trouvez ici d'ailleurs à votre disposition. Donc cette thèse, elle va authentifier un corpus. Donc j'ai traité 120 albums et romans. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant d'ailleurs, honnêtement. Dans ces 120 albums et romans, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses sur la mémoire de l'immigration. Il y a des albums qui traitent de l'immigration dans les usines Renault à Boulogne-Billancourt. Il y a des albums qui vont parler exclusivement de la guerre d'Algérie. Il y a des albums qui seront beaucoup plus vagues, qui vont parler de la question du voyage sans qu'il y ait de localisation vraiment très précise. Et c'est en faisant un travail un peu plus complet sur l'image qu'on s'aperçoit que c'est qu'on parle du Maghreb, en fait. Donc moi, j'ai centré mon étude uniquement sur le Maghreb. Et dans le Maghreb, j'ai centré mon étude uniquement sur l'Algérie parce que c'est majoritairement des auteurs qui viennent d'Algérie qui écrivent en France. Il y a Attar Benjelloun pour le Maroc. Il y a Kébir Ami pour la Tunisie et l'Algérie, mais ça correspond aussi en littérature à la veine de la littérature d'expression française hein, qu'on avait justement en Algérie. Alors là, je vous renvoie à tous les grands noms, Assia Djebbar, Kateb Yassine, Mohamed Dib, voilà, tous ces grands auteurs. Alors, sur ces récits d'immigration, on a plein de questions qu'on vous livre un petit peu pour lancer le débat. Déjà l'appellation migrant, qu'est-ce qu'un enfant migrant? Vous voyez bien qu'aujourd'hui dans les médias, le terme est rentré complètement dans la terminologie actuelle. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant migrant dans le milieu scolaire? Où est-ce qu'il est scolarisé? Comment il est scolarisé? Est-ce qu'on prend en compte la question de la migration? Quels sont les corpus d'aujourd'hui? Moi j'ai centré ma question sur la France et l'Algérie, mais je peux très bien extrapoler sur l'immigration contemporaine. Et puis sur la mémoire, l'idée qu'il s'agit de mémoire plurielle. Alors, en gros, les deux versants de notre communication, aujourd'hui, pour moi, c'est traiter la question de l'exil et des questions mémorielles. Pour Magali, c'est traiter la question de l'enfant migrant à l'école. Alors, pour l'exil, alors, il y a deux topoi qu'on va retrouver tout le temps dans cette littérature. Ce sont les mêmes topoi que vous retrouvez dans la littérature pour adultes. Premièrement, l'arrachement au pays natal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Vircondelet, qui est un auteur d'origine pied-noir, qui est vraiment voilà, emblématique de cette mouvance, qui parle de la traversée. Donc, le deuxième motif extrêmement important dans l'arrachement au pays natal, c'est la traversée. Tous les auteurs racontent le départ d'Algérie en bateau, l'arrivée en France, et puis l'image archétypale, c'est l'enfant sur le pont du bateau qui regarde au loin la mer et qui voit la rade d'Alger et qui s'éloigne de l'Algérie. Alors moi, j'ai conceptualisé ça dans ma thèse sur la question du tragique du trop tard, puisque pour les pieds noirs, c'est un tragique tellement coupé du réel que c'est une image du jamais plus. Hein. Voilà. Donc c'est ça, cette image-là que j'ai voulu mettre en avant. Donc le bateau qui part, alors je peux vous montrer une image, je reviendrai à... voilà, sur, voilà, ça c'est vraiment l'image archétypale qu'on va retrouver alors, dans les photographies, mais dans les récits. Dans les récits, l'enfant pleure au bastingage du navire, le navire s'en va, on voit au loin la rade d'Alger. Ça c'est une image qu'on retrouve partout et qui a complètement façonné l'imaginaire des enfants issus d'immigration, même si ça n'est pas raconté, même s'il n'est pas au contact réel de cette image. Ça fait partie d'images collectives archétypales. Donc, le topos du bateau qui part, qu'on retrouve aujourd'hui dans les migrations contemporaines, mais alors là aussi de façon extrêmement tragique, hein, c'est la barque qui va faire naufrage. Et donc, je vous renvoie à la référence de Pierre Nora, l'historien, qui parle des lieux de mémoire. Et pour moi, le bateau qui part, c'est un lieu de mémoire de la mémoire de l'immigration algérienne. Alors, je reviens un peu en arrière, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Deuxième question mémorielle qu'il me semble important de traiter, même si elle a été longtemps tue par les auteurs issus de l'immigration, c'est la question de la guerre d'Algérie. Il y a beaucoup d'auteurs qui n'en parlent pas. Il y a eu beaucoup de déni par rapport à ça. Si vous prenez les auteurs issus de l'immigration beurre, ils ne parlent pas du tout de l'Algérie. En tout cas, pas de la guerre. Cependant, aujourd'hui, dans les albums, on trouve une émergence de ce thème. Alors, je vous renvoie aux expressions de Benjamin Stora qui parle de concurrence des mémoires. Hein. Pour la guerre d'Algérie, on a des mémoires différentes qui se concurrencent. La mémoire des appelés du contingent, celle des harkis, celle des pieds noirs, celle des membres du FLN. Voilà. Alors, Jacques Ferrandez, qui est un illustrateur connu de bande dessinée, qui a fait les fameux carnets d'Orient, Jacques Ferrandez, il parle des mémoires iconographiques. Et lui, quand il dessine la Casbah d'Alger, il explique qu'il s'est inspiré de films, d'images. Voilà. Et puis, j'ai voulu insister sur les mémoires reconfigurées en vous prenant un petit exemple que j'ai pu étudier en étant à Marseille un moment. Ça m'a vraiment troublée comme exemple. Alors, si vous connaissez un peu Marseille, vous avez la Corniche. Ce qu'on appelle la Corniche, c'est le bord de mer. Et il y a un monument érigé à la gloire du colonialisme qui a été érigé en 1931, qui est une espèce de porte qui donne directement sur la mer. C'est très, très beau, c'est vraiment la porte de l'immigration. Et j'ai interrogé de manière un peu empirique des gens sur la signification et la symbolique de cette porte. Il n'y a eu aucun de mes interlocuteurs qui m'a rappelé le contexte colonial de la construction de cette porte, alors que c'est un monument à la gloire des supplétifs de l'armée, etc. Donc, quand je leur ai dit « mais c'est quoi pour vous ?», c'était en gros la porte de l'immigration, la porte de l'Orient, ce que voient les immigrés quand ils arrivent en bateau justement à Marseille. Et c'était une parole qui a été autant partagée du côté des enfants d'immigration que des enfants qui ne sont pas issus d'immigration. Et là, vraiment, ça me paraît un exemple important du travail mémoriel qui est fait. C'est-à-dire les conditions finalement d'émergence historiques peuvent évoluer et on garde en mémoire une symbolique qui est finalement centrée sur la question d'aujourd'hui. Et la question d'aujourd'hui, c'est Marseille, la porte vers l'Orient, le Maghreb en face, l'Algérie en face, etc. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant pour notre propos qui concerne là une mémoire qui est reconfigurée. C'est vraiment pas une mémoire qui correspond à l'émergence de ce monument historique. Voilà, donc petit exemple encore, vous voyez la récupération. Ici, on a la photographie présentée par Alain Vircondelet. Et ici, on a la récupération de cette photographie recolorisée par Catherine Louis, qui en a fait ce travail extrêmement intéressant. Alors là, c'est un bateau qui arrive. L'image traditionnelle, c'est le bateau qui part. C'est le déchirement. Vous voyez, encore une fois, la même image. Là, c'est dessiné par Valentine Gobi et Ronan Badel. Valentine Gobi, c'est l'auteur, Ronan Badel, c'est l'illustrateur. Et vous voyez qu'on retrouve exactement tous les archétypes dont j'ai parlé. Alors ici, dans le cadre de l'album Idriss, la bille d'Idriss, publiée aux éditions Rue du Monde, là, on est dans les migrations contemporaines. On a toujours l'image du bateau, mais ce n'est plus du tout la même chose. C'est le bateau des gardes-côtes qui va arrêter, enfin sauver d'ailleurs, les migrants. Et on n'est plus dans le même contexte, même si finalement le contexte et comment, du point de vue du motif marin, et quand même du bateau. Mais là, c'est la fragilité du bateau et le tragique qui en découle. Vous voyez, dans le texte, on parle de rafio, de coq de noix. Voilà, c'est assez intéressant, d'ailleurs, cette évolution sémantique autour de la fragilité du bateau. Alors, là aussi, une petite image intéressante du point de vue de l'imaginaire de l'enfant. Hein, une image beaucoup plus colorée en pastel. Alors, pour avancer toujours sur nos questions de l'immigration, donc moi je me suis intéressée à la question des voix. Voilà. Quelles sont ces voix mémorielles? D'où est-ce qu'elles proviennent? Qu'est-ce qu'elles disent sur le pays natal? Alors, j'ai fait un petit schéma que vous retrouvez d'ailleurs dans ma thèse sur ce déchirement entre l'Algérie et la France. J'ai pris quatre exemples, enfin trois exemples d'auteurs identifiés. Et puis, vous avez vu que j'ai mis les harkis là, tout seul. Il n'y a pas de flèche qui part de ce schéma à partir des harkis, parce que les harkis sont considérés comme la mémoire oubliée, voilà, les oubliés de l'histoire. Et alors, il y a des enfants de harkis qui ont écrit pour adultes. Il n'y a rien pour les enfants. Il y a des choses pour adultes. Mais on considère que c'est une mémoire qui a été tue. Alors, si vous regardez les cercles que j'ai traités là, vous avez au milieu des sentiments assez négatifs, hein, tristesse, amertume, nostalgie. Alors, Benjamin Stora, il parle pour les pieds noirs de la fameuse nostalgéria, c'est-à-dire la nostalgie exacerbée du pays natal. Et puis, j'ai mis des flèches. Par exemple, pour Azouz Begag, le passage par l'Algérie, c'est un retour vers la France. C'est-à-dire que lui, son imaginaire est complètement centré sur la France. Et c'est d'ailleurs une idée qu'il défend politiquement, hein, puisque c'est un grand défenseur de la notion d'intégration à la française. Leïla Sebar, elle est dans une culture double. Père algérien, mère française. Et là, j'ai mis du coup des flèches rouges pour montrer comment elle passe par des sentiments ambivalents. Et son imaginaire, après, il est déchiré entre la France... la flèche rouge qui monte, et puis l'Algérie, la flèche rouge qui descend. Et ça, vous l'avez dans tous ses écrits, que ce soit ses écrits pour adultes ou pour enfants. Jean-Paul Nozière, c'est un coopérant. Donc là encore, c'est une place un peu particulière, comme la place des appelés du contingent, qui est très différente aussi. Hein. Lui, comme coopérant, vous voyez qu'il passe aussi par des sentiments négatifs, mais que finalement, il est dans le regret d'une Algérie, et il est même dans le contre-don, parce que pour lui, on doit quelque chose à l'Algérie en réparation de la colonisation. Et puis les harkis que j'ai laissés un petit peu en marge de ce graphique. Alors ici, j'ai repris le terme d'identité conflictuelle dont Salman Rushdie a réaffirmé l'importance en montrant que la question identitaire, elle devient complètement reliée à des questions communautaires. C'est le dernier livre qu'il a écrit. Donc je trouvais ça intéressant. Je voulais rappeler aussi qu'on ne peut pas parler de la guerre d'Algérie sans prendre en compte les voies mosaïques de cette guerre. Un appelé du contingent n'a pas le même discours qu'un membre du FLN ou qu'un moudjahidine. Voilà. Donc la question de la culture commune, vous voyez que je la mets avec un point d'interrogation. Et certainement, tout à l'heure, Magali vous parlera de cette question de la culture commune. Alors voilà encore un exemple. Donc ça, c'est un album des éditions Rue du Monde. Alors l'intérêt des éditions Rue du Monde, c'est de panacher des photographies, un texte fictionnel pour les enfants. Et du coup, ça oblige à une lecture hypertextuelle où on va prendre des indices dans l'image qui est dessinée, des indices dans la photographie et des indices dans le texte. Et ici, on vous explique clairement l'épuration sanglante qui frappe les harkis. Donc ça, c'est intéressant parce que la littérature de jeunesse, peu à peu, prend en compte la mémoire des harkis. Alors, j'ai parlé de déni de mémoire, parce qu'on peut aller jusque-là. Alors d'abord, on a parlé de la mémoire de la guerre d'Algérie, mais il y a une autre mémoire qui s'efface et qui est très embrumée, c'est la question de la mémoire du pays natal. En gros, quand vous regardez un peu les trajectoires migratoires, les gens issus de l'immigration algérienne arrivent en France avec l'idée qu'ils vont repartir. Vont rester là un an, deux ans. Vous avez des récits de femmes d'ailleurs qui racontent qu'elles ont leurs cartons fermés dans leurs appartements en pensant que c'est pas la peine de les ouvrir parce que dans un an, elles repartent au pays. Et finalement, 30 ans après, elles sont là et elles ont ouvert leurs cartons. Mais ça, c'est très intéressant parce que du coup, c'est une mémoire qui est ambivalente. Parce que comment est-ce que vous faites pour vous inscrire dans un pays alors que vous avez toujours l'idée de repartir rapidement? D'autre part, donc la Casbah d'Alger, j'en ai parlé, les images de la guerre d'Algérie aussi. Alors, d'autre part, il y a la question coloniale. Ça aussi, c'est une question qui voilà, a été longtemps tabou, très peu traitée. Je vous ai mis quelques noms d'auteurs qui le traitent du côté de la littérature pour adultes, mais aussi pour les enfants. Donc Didier Deninx aux éditions Rue du Monde, qui a publié deux ouvrages, Le maître est un clandestin et Nos ancêtres les pygmées, qui sont deux dénonciations de la colonisation. Azouz Begag qui en parle, mais il en parle tardivement dans son œuvre. Et puis Françoise Kéricel, qui est une pied noire, qui a fait un album qui s'appelle Nona des Sables, dans lequel elle insère des photographies de l'Algérie. Donc c'est trois exemples pour vous dire que petit à petit, il y a l'émergence d'une mémoire de la colonisation. Alors voilà toujours un exemple sur l'Algérie. Alors quand je parle de déni d'histoire, j'ai envie de l'appliquer aussi à cette question de la réconciliation. La littérature de jeunesse a tendance à parler de mémoire réconciliée. C'est peut-être un peu fantasmatique, c'est peut-être un peu exagéré. En tout cas, ici, c'est intéressant parce que c'est un appelé du contingent qui va retrouver un de ses anciens amis. Et il se trouve que cet ami était engagé dans le camp en face. C'était un membre du FLN. Alors, l'histoire est rocambolesque. Moi, je ne crois pas beaucoup à ce type de réalité. Mais la symbolique est très forte. Et quand c'est de la littérature de jeunesse qui va être lue dans le contexte scolaire, vous comprenez bien aussi que la dimension citoyenne de la construction d'une mémoire commune est véhiculée par la littérature de jeunesse. Même si, à mon avis, là, c'est un petit peu, peut-être un peu exagéré. Alors, je vais passer la parole à Magali, voilà, qui va vous parler maintenant de la scolarisation de la question de la migration du côté des enfants migrants.
Alors, là, on va parler plus particulièrement des enfants migrants, on va dire en migration contemporaine, mais pas simplement, c'est-à-dire que vous comprenez bien par rapport à ce que Anne a expliqué, que si on est descendant de migrants, par exemple, si nos parents sont... À l'époque actuelle, ce n'est plus les parents, c'est plutôt les grands-parents, voire même les arrière-grands-parents, mais ont vécu la guerre d'Algérie, sont eux-mêmes venus d'Algérie ou d'autres pays. Il y a cette mémoire familiale et collective qui est extrêmement prégnante et qui va structurer le rapport des enfants à l'école. Et effectivement, ma thématique, c'est la scolarisation des enfants migrants, mais en fait, dans cette question de la mémoire et du rapport qui est construit à la culture autre, il y a bien évidemment les autres élèves, c'est-à-dire la place finalement qui est donnée à la culture et à l'identité du migrant dans le pays d'accueil. Et justement, dans une classe, on va dire une classe normale, mais ça ne veut pas dire grand-chose, qu'est-ce que ça peut donner également ? Alors, première chose, c'est-à-dire que ces ouvrages qu'on vient de voir, ce sont des ouvrages de littérature de jeunesse, donc qui sont amenés à être utilisés en contexte scolaire. Donc, que ce soit des ouvrages sur les migrations contemporaines, comme Anne vient de vous en montrer, ou alors des ouvrages sur des migrations plus anciennes. On a bien vu, il y a des ouvrages de littérature jeunesse qui traitent de la guerre d'Algérie, par exemple. Donc, la question, effectivement, la première question, si on se place du côté du migrant, c'est quels sont les enjeux d'acculturation et d'intégration pour l'enfant migrant à l'école et pour ses descendants de migrants. Alors, justement, j'utilise un terme spécifique qui est acculturation, que je mets en regard avec le mot intégration, parce que ce mot d'acculturation, en fait, on l'utilise beaucoup à l'école. Et donc, même dans les programmes, on a ce terme d'acculturation qui n'a pas forcément le même sens. Et justement, souvent, les enseignants l'utilisent, pas forcément dans le sens qui est le sens sociologique, on va dire. Donc, c'est pour ça que je me permets ce petit historique. Aujourd'hui, on parle plus d'intégration que d'acculturation, dans le sens où le mot acculturation est quand même porteur d'un certain nombre de, on va dire, de sous-tendus idéologiques. Vous avez un petit rappel. Donc, le concept d'acculturation est emprunté à l'anthropologie nord-américaine de la fin du 19e. Donc là, je vous cite Ferréol et Jucquois. Il s'agit des mécanismes d'apprentissage et de socialisation, l'intégration d'un individu à un environnement qui lui est étranger, etc. Donc, c'est relativement neutre. Ce qui est intéressant, c'est la fin de la citation, ce que j'ai mis en gras. Donc, à l'occasion d'invasion, de colonisation ou de migration. Donc on voit qu'il y a quand même les termes invasion, colonisation, qui sous-entendent une forme de domination de culture sur d'autres. Et donc l'acculturation serait quand même toujours du même côté, du côté de ceux qui sont les perdants de la guerre, on va dire, pour aller vite. C'est eux qui devraient renoncer à quelque chose, abandonner quelque chose en tout cas. À partir des années 50, on a vraiment critiqué ce terme d'acculturation parce qu'il sous-entendait qu'il fallait renoncer à une part de sa culture pour finalement en acquérir une autre qui serait meilleure. Alors, à quel titre ? Bon, c'est pas le lieu d'en discuter, mais on voit bien que ça pose problème. Donc voilà, c'est rapporter une forme d'ethnocentrisme. Alors aujourd'hui, effectivement, on va plutôt parler d'intégration. Et là encore, je vous donne la définition sociologique du terme d'intégration. Un ensemble des liens sociaux qui font qu'un individu est inscrit dans telle société et en partage les codes. Donc il y a bien cette idée de partager des codes et pas de renoncer à une part de son identité pour en acquérir une autre qui nous serait imposée de l'extérieur. Or, ça n'empêche pas que l'on puisse considérer le mot acculturation dans ce sens-là, c'est-à-dire considérer qu'il s'agit d'accepter ou d'intégrer des éléments d'une nouvelle culture sans pour autant renoncer à une part de l'identité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de penser l'identité comme quelque chose qui est, qui a une quantité de culture définie. Si on en prend quelque chose en plus, ce n'est pas parce qu'on abandonne une partie. On peut tout à fait envisager son identité comme quelque chose de dynamique et qui peut être en extension. Alors c'est important parce que le terme d'acculturation, justement, il est utilisé aussi en contexte scolaire et dans un sens très précis. Il est utilisé dans le contexte scolaire pour désigner le processus d'entrée, alors ce qu'on appelle en littératie, c'est-à-dire tous les codes qui sont liés à l'écrit. C'est ça qu'on emploie, qu'on met derrière le mot acculturation, notamment en didactique du français. Alors il faut le savoir, parce que si vous voulez, vous pouvez avoir des enseignants qui, en toute bonne foi, vont parler de l'acculturation à l'écrit. Ça ne signifie pas forcément pour eux que l'idée, c'est que l'élève migrant va renoncer à une part de sa culture. Ou du moins, ils ne l'ont pas questionné comme ça. De quoi on parle, c'est-à-dire faire entrer l'enfant dans une posture de lecteur. Donc je vous ai mis deux références. Une plutôt sur le café pédagogique, c'est facile à lire. Une petite brève qui résume en fait l'article de la revue Repère qui est consacré justement aux pratiques autour de l'écrit pour faire entrer les enfants dans la lecture. Donc, vous voyez, c'est très spécifique en fait. Donc vous avez ici une définition de l'acculturation, un travail d'appropriation et de familiarisation avec la culture écrite, ses œuvres, ses codes linguistiques et ses pratiques sociales. Il s'agit de faire découvrir aux élèves le pouvoir d'action et de réflexion que confère la maîtrise de la langue écrite. Donc, on parle encore, c'est deuxième citation, d'une pratique de classe très acculturante. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une pratique qui contribue à la réussite des élèves dans tous les domaines d'apprentissage, du lire-écrire. Donc, vous voyez, c'est finalement un terme qui s'applique aussi aux élèves, on va dire français langue maternelle. On n'est pas forcément dans le français langue seconde, ou français langue d'intégration. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment on peut, pour les élèves, migrants notamment, descendants de migrants, articuler un peu les deux, et comment finalement la littérature de jeunesse, ça peut être un support intéressant pour cette double acculturation. Finalement, un enfant de migrant qui arrive en classe dans un pays d'accueil, donc on va dire la France, puisque c'est notre contexte, il va être confronté à un choc culturel, bien évidemment. Mais ce choc culturel, c'est effectivement la mémoire du pays d'origine, mais c'est aussi finalement les pratiques d'acculturation à l'écrit qui sont celles de la discipline français à l'école et puis finalement aussi de la scolarisation en général. Donc voilà, il faut bien articuler ces deux choses-là. Alors les deux peuvent être problématiques d'ailleurs, suivant le parcours de l'enfant, puisque vous avez des enfants de migrants qui finalement ont un niveau de lecture et d'écriture assez élevé dans leur pays d'origine, ce qui fait que ce qui va être compliqué au départ pour eux, c'est d'apprendre à parler français, par exemple. Mais s'ils savent déjà lire dans leur langue d'origine, ils savent ce que c'est que lire. Par contre, si vous arrivez et que vous avez à apprendre une langue mais que vous devez apprendre en plus ce que c'est que lire dans cette langue, c'est plus difficile. Ou vous pouvez avoir aussi des élèves qui arrivent, qui parlent français, mais qui n'ont pas été scolarisés. Donc vous voyez, vous avez en fait une multitude de situations, alors qu'on a tendance à dire les migrants, comme si c'était une espèce d'entité, et de niveaux divers d'acculturation à l'écrit qu'il faut prendre en compte. Bon, je n'ai pas prétention à régler tous les problèmes dans cette communication, vous en doutez, d'ailleurs, ni même les régler tout court. Là, en fait, l'idée, c'est de poser un peu les problèmes, entre guillemets, ou du moins les enjeux, et de voir comment ça va s'articuler à cette question de la mémoire. Alors, bah, qu'est-ce qu'on va faire, du coup, enfin, du moins du point de vue de l'enseignant, qu'est-ce qu'on peut envisager comme démarche? Là, on est plus au niveau de, voilà, de la proposition de démarche. Donc, penser l'acculturation à l'école, donc, vous avez bien compris, hein, en double niveau, donc, au sens de comment intégrer la culture du pays d'accueil sans renoncer à la sienne, et puis aussi, hein, réussir à rentrer dans l'écrit pour pouvoir finalement s'intégrer à la culture scolaire. Donc, combiner la nécessité de l'entrée en littératie et celle de la construction d'une identité culturelle qui ne soit pas vécue comme un abandon de sa culture d'origine. Alors là, on est bien dans la question de la mémoire. Il ne s'agit pas de dire à l'enfant, tu vas faire comme si tu n'avais pas eu de vie avant, hein, tu vas tout oublier de ce que tu savais et tu repars à zéro. Hein, parce que c'est... Aujourd'hui, même dans les écoles, on n'est plus dans cette démarche hein, où on disait aux parents, il ne faut surtout pas lui parler la langue de votre pays. Hein, vous lui parlez en français, même si vous parlez mal français. Voilà, il faut faire comme si la langue du pays d'origine n'existait pas. Donc, on n'est plus dans cette démarche-là. Mais bon, il y a peut-être des choses qu'il faut expliciter, dire à l'enfant que effectivement, la mémoire... notamment si c'est une mémoire traumatique, on peut avoir envie d'en parler, on peut ne pas avoir envie d'en parler, c'est très compliqué, mais cette mémoire-là, en tout cas, elle existe, et il ne faut pas faire comme si on était en face d'une table rase. Alors, effectivement, il y a un terme que j'aime beaucoup, qui a été développé par le philosophe Jacques de Morgon, qui est interculturation. L'interculturation, en fait, c'est un terme qu'il a forgé, qu'il a inventé, on va dire, pour aller plus loin que interculturalité. Parce que ce qu'il reproche en fait à l'interculturalité, c'est que souvent, l'interculturel s'arrête au choc de la rencontre. C'est-à-dire, voilà, on fait le constat qu'on est différent. Et puis, voilà, bah, toi tu fais ça, moi je fais ça, ok, on n'est pas pareil, et ah, c'est bien la diversité, c'est super. Bon, voilà, on a réglé le problème. Ben non. En fait, on a juste posé les premières pierre de la démarche globale, c'est-à-dire que une fois qu'on a constaté qu'on était différent, la question c'est de savoir comment on va plus loin, c'est-à-dire justement est-ce qu'on se contente de constater nos différences ou est-ce qu'on essaye finalement d'envisager l'identité culturelle comme quelque chose de dynamique. Et dans l'interculturation de Morgon, c'est justement cette idée qu'on ne va pas renoncer à une part de son identité. On n'est pas obligé d'en abandonner une partie pour en adopter une autre. On va vraiment constituer une synthèse qui nous est personnelle. Voilà. Donc ça prend plus de temps, effectivement. Et donc, du coup, la mémoire de la culture d'origine, hein, je reviens à notre thématique de départ, dans ce sens, elle est primordiale. C'est-à-dire la question, c'est quelle mémoire on va conserver. Et en fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse théorique, parce que ça va dépendre. Vous voyez, si on prend l'exemple que Anne a donné tout à l'heure, La bille d'Idriss, qui est cet album de littérature jeunesse qui va présenter donc, la migration d'un enfant visiblement d'un pays africain, hein, qui va manquer de faire naufrage dans sa coque de noix et qui va être finalement sauvé par les gardes-côtes. Ben, finalement, en fonction de l'expérience vécue par l'enfant, la mémoire qu'il va avoir envie de conserver peut être complètement différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de conserver la trace de ce voyage parce que c'est quelque chose qui nous a marqué. On peut avoir envie de conserver la mémoire du pays d'origine. Mais pour certains, on peut avoir envie surtout de l'oublier parce que c'est extrêmement traumatique. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose de forcer les enfants à s'en souvenir. Tout comme la langue d'origine, vous allez avoir des postures d'enfants qui vont être complètement différentes. Vous allez avoir des enfants qui vont être très contents dans une classe d'accueil si on leur demande de parler leur langue, pour faire une comparaison avec le français. Il y a tout un tas de didactiques qui insistent bien sur comparons nos langues, c'est aussi bénéfique finalement pour les élèves français. Mais vous avez des enfants qui ne veulent pas parler leur langue d'origine, hein, pour tout un tas de raisons. Et en fait, il faut respecter ça aussi. Donc justement, dans la question du traumatismes, etc. Donc les supports qui sont proposés aujourd'hui, ce sont des supports intéressants, mais ils sont à manier avec précaution, en fait. Alors, d'où, en quoi le rôle de l'école est-il fondamental? Et quel statut pour les ouvrages de littérature jeunesse dans la classe? Alors, quelques propositions, hein, bien sûr, puisque c'est un support complexe, vous l'avez compris. Hein, aussi parce que ça présente parfois une mémoire un peu stéréotypée, hein, c'est ce que Anne a montré, un blocage sur la nostalgie. Ça propose aussi des situations un peu traumatiques. Ça propose aussi, ça pose question, puisque par exemple, on ne sait pas de quel pays vient exactement cet enfant africain. Donc, qu'est-ce que ça donne à voir sur les pays africains pour les autres enfants? Qu'est-ce que ça construit comme représentation sur l'Afrique, justement, pour les enfants non migrants? Ça construit des représentations très stéréotypées qui existent déjà dans la société, hein, où on va se dire, voilà, on comprend bien, ils sont tous miséreux là-bas. Alors, évidemment, ça part de mon sentiment, dans le sens, ça permet l'accueil, un accueil différent, c'est-à-dire une prise en compte, une empathie, mais en même temps, ça construit quand même des représentations problématiques où on n'arrive pas à sortir de cette pensée coloniale de l'Afrique, c'est finalement un endroit où on meurt de faim et la meilleure chose qu'on a à en faire, c'est d'en partir. L'Afrique est quand même un continent très vaste et finalement, il y a des endroits où il n'y a pas la guerre, où les gens ne meurent pas de faim. Donc voilà. Hein, donc il y a aussi cette dimension-là de la mémoire de l'Afrique, on va dire, qui continue d'être perpétuée, hein, en toute bonne foi, hein, en tout cas, par les auteurs de littérature jeunesse. Donc, qui a à questionner pour l'enseignant. C'est-à-dire que quand il propose ce genre de support, il faut bien faire attention. Qu'est-ce que je donne à voir? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, voilà. La littérature, effectivement, hein, elle est un support d'acculturation au sens littéracique, c'est-à-dire au sens d'entrée dans l'écrit, et elle est aussi un support d'acculturation au sens d'interculturation, c'est-à-dire que ça doit être le lieu d'un questionnement sur les identités, d'un questionnement sur les mémoires, hein, pour justement permettre de passer d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Mais passer d'une culture à l'autre, ça ne veut pas dire renoncer à une culture pour en adopter une autre de manière unilatérale. Alors, pourquoi la littérature, c'est la fin de cette diapo, hein, est particulièrement intéressante, importante dans ce processus, hein, d'interculturation, voilà, pour deux raisons, en fait, hein, qui sont au fondement de la littérature. La première, c'est qu'effectivement, la littérature, c'est un objet patrimonial. Hein, même si c'est en littérature jeunesse, on va dire, vous avez des œuvres de littérature jeunesse qui sont déjà considérées par le ministère de l'Éducation nationale comme patrimoniales. Bon, ça peut se discuter, c'est pas le lieu, mais en tout cas, voilà. Pourquoi patrimoniale? Puisque la littérature, elle émane d'une collectivité. Donc elle a une dimension culturelle. Mais en même temps, c'est un regard subjectif sur cette collectivité. L'auteur livre son point de vue sur cette culture. Et donc, on a à la fois un point de vue individuel et collectif. On nous présente une culture et on nous présente un regard réflexif sur cette culture. Donc la littérature est donc un support complexe par rapport au documentaire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que le sujet peut l'investir. Deuxième chose, là je cite un anthropologue que j'aime beaucoup, qui est François Laplantine, qui a réfléchi sur ces questions de l'identité. Et qui lui défend l'idée que l'identité fixe, l'identité statique, ça n'existe pas. Voilà. C'est impossible. Une identité qui ne bouge pas, c'est une identité qui meurt. Une culture qui ne bouge pas, c'est une culture qui disparaît. Toutes les cultures se sont construites dans l'interaction. Et il met en évidence que la littérature est en fait le support le plus approprié pour mettre en évidence cette idée que l'identité figée, vous vous souvenez, on a parlé d'identité nationale il y a très peu de temps, en fait, ça n'existe pas, c'est un contresens absolu. Puisque, justement, si on devait définir la littérature ne parle que de cette impossibilité de figer l'identité. Prenons Montaigne, hein, il dit « je ne peins pas l'être, je peins le passage ». Prenons Proust, qu'est-ce qu'il dit ? Ça n'est que quand j'ai perdu l'amour d'Albertine que je me rends compte que je l'aime. » Bon. Finalement, la littérature n'est que ça, cette mise en langage de l'impossibilité de penser l'identité. Donc il faut s'appuyer là-dessus, parce que finalement, c'est un support évident. Alors, finalement, ça je l'ai déjà dit, donc c'est bien. C'est un support qui peut être, qui peut contribuer à figer les représentations. Hein, c'est ce qu'on a vu. La mémoire du pays d'origine, elle peut être trop partielle, traumatique. Hein, donc voilà, c'est un lieu dangereux, toxique, c'est un lieu trop idéalisé, c'est un non-lieu. L'ouvrage se consacre uniquement au voyage et pas au départ et pas à l'arrivée. Donc, OK. Il y a beaucoup d'indéterminations. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai déjà dit. J'ai dit mes diapos dans le désordre, donc c'est pas grave. Je suis cohérente avec moi-même, néanmoins. C'est l'essentiel. Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut proposer comme usage ? Quand on a montré que c'était extrêmement important d'une part, et en même temps qu'il fallait s'en méfier, du moins, il fallait se méfier des usages qu'on pouvait en faire, hein, qu'il fallait bien les questionner. Alors, du côté des migrants et des descendants de migrants, il faut les laisser exprimer la mémoire du traumatisme de départ s'ils le souhaitent, c'est-à-dire que s'il y a un enfant qui ne veut pas en parler, ben, on ne va pas le forcer. Mettre en perspective aussi, c'est intéressant, sa propre expérience avec une expérience fictionnelle ou fictionnalisé, c'est-à-dire que ça peut être intéressant pour un migrant contemporain de réfléchir à un ouvrage de littérature de jeunesse qui va parler de la guerre d'Algérie, parce que finalement, ça va mettre une distance. C'est l'histoire d'une migration, c'est pas la mienne, c'est celle de quelqu'un d'autre. Et donc, une sorte d'objet transitionnel, si vous voulez. Donc ça peut être très intéressant. S'acculturer à l'écrit en s'interculturant, hein, donc, c'est-à-dire se poser des questions sur son identité, hein, donc qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce qui m'intéresse dans cet ouvrage-là, pourquoi. Donc, décentration identitaire, le pas de côté, hein, c'est-à-dire parler d'autre chose, justement, hein, s'intéresser à d'autres types de migrations. Et puis, dans le cadre de la classe, amener le questionnement identitaire et mémoriel chez tous les élèves, et pas simplement les migrants, hein, c'est-à-dire poser des questions du type eh bien, qu'est-ce que vous auriez ressenti à la place du petit garçon qui est dans la barque, si ça avait été vous ? Des choses aussi simples que ça, puisque là, on est en littérature de jeunesse, je suis plutôt du côté de l'école primaire. Hein, donc, effectivement, il ne s'agit pas de responsabiliser à outrance des enfants qui n'y peuvent rien, mais simplement hein, de leur permettre de s'identifier à d'autres personnes. C'est ça aussi, le questionnement de l'identité. Et l'interculturation aussi, elle doit être aussi bien du côté de celui qui arrive que de celui qui reçoit. On pense toujours à l'intégration, ça va dans les deux sens. C'est pas simplement celui qui arrive qui doit s'intégrer, c'est ceux qui accueillent qui doivent intégrer. Et l'interculturation, elle se pense aussi aux deux niveaux. Donc là, comme j'ai beaucoup parlé, c'était un autre exemple, mais vous l'aurez une autre fois, avec un autre album. Donc le pas de côté, ça, c'est une histoire qui se passe à Taïwan. Et je voulais vous montrer en fait qu'on est dans la salle de bain à Taïwan, mais finalement, on pourrait être n'importe où. Et c'est ça qui est intéressant. Justement, il faut aussi penser à la dimension universelle de la mémoire. Et donc, c'est un petit garçon qui rentre au CP. Donc, voilà, et qui discute avec sa grand-mère. Donc, il y a cette question de la mémoire des générations. On peut la déplacer, en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant. On peut la déplacer ailleurs que sur le trauma. Mais ce sera pour une autre fois. Alors, si j'avais fait une conclusion. Voilà. Donc, pour conclure hein, rapidement... sans nier la nécessité d'exprimer le traumatisme de l'exil et ou la nostalgie, puisque c'est nécessaire, hein, bien sûr, ça fait partie aussi du rôle de la littérature, ce qu'on peut envisager, hein, c'est interroger la mémoire construite par les supports à destination des élèves, quel rapport au pays d'origine, c'est ce que Anne vous a montré aussi tout à l'heure, donc, quelle mémoire est construite. En tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, on va dire, hein, on élargit, puisqu'il n'y a pas que des enseignants ici, donc vraiment, questionner les supports et questionner le type de mémoire qui est proposé. Et puis, proposer une réflexion sur la mémoire, donc, qui crée ce qu'on appelle une identité-relation. J'aime bien ce terme d'Edouard Glissant, hein, c'est-à-dire une identité qui ne se pense pas comme fermée sur elle-même, mais qui se pense en relation avec d'autres. Voilà. Merci. Et puis, ben, Anne et moi sommes à votre disposition si vous avez des questions. Je récupère mon micro.